Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver dans cet espace dédié à l'économie de la RDC. Je dis tout de suite bonsoir à Jocelyne Moussaoupondé.
Bonsoir, Georges.
Les nouvelles économiques du pays, ce sera avec vous.
Nous serons en ligne depuis Matadi avec Dani Kinda Zita qui nous parlera du projet de transport en commun entre la province du Bas-Congo et la province angolaise de Cabinda. Nous irons aussi à Kindu où la coopérative Imara assiste les opérateurs économiques.
Et ce sera dans la seconde partie de cette émission, une seconde partie qui reçoit Herman Bonio, ADG de la SUNAS. Depuis quelques jours, on assiste à un mouvement de grève au sein de cette institution. Qu'est-ce qui se passe exactement et quelles en sont les voies de sortie? Nous le saurons dans 10 minutes. Le ministre des Mines tranche le conflit qui oppose les sociétés Kral Metal Congo et Semi Kivu au sujet du site de l'Ueshi, Jocelyne.
La société minière du Kivu est seule titulaire des droits miniers. La société Kral Metal Congo est mise en garde contre tout trouble de jouissance de droits reconnu à Semi Kivu sur le site de l'Ueshi sous peine de sanctions. Cette décision du ministre Alexis Mikanji Pengé est contenue dans un communiqué remis ce soir même à Radio Capri.
Alexis Mikanji, plutôt, les directeur de cabinet et la direction générale de recettes administratives domaniales judiciaires et de participation à DGRA doit multiplier les efforts pour maximiser les recettes.
C'est le message de son directeur général ce matin lors de sa rencontre avec les agents de la DGRA Kisangani. C'est grâce à cet effort que la direction générale pourra résoudre plusieurs problèmes qui se posent dans les provinces. Quant à la situation des agents non encore admis au régime de sous-statut, le DG a appelé ses collaborateurs à la patience. Le dossier est sur la table du ministre des tutelles Atidi.
Et après un arrêt de 48 heures, un arrêt de travail, les agents de l'OFIDA au port international de Matadi ont repris du travail ce lundi.
Les résultats de la rencontre du week-end dernier entre le gouverneur de province, l'inspectrice provinciale de travail, le directeur provincial et les délégués syndicaux de cet office a été à la base de cette reprise, a déclaré à Radio Capi Michel Vumbi, vice-président de la délégation syndicale de l'OFIDA Bas-Congo, signalant que ces agents s'opposaient à la présence des experts de la firme CTC dans leur bureau.
Élaboration du projet de budget 2010, paiement des arriérés de rétrocession et renforcement de la mobilisation des recettes provinciales. Voilà, c'est la rencontre.
Voilà.
Aujourd'hui à la primature.
Voilà, Georges, ces questions ont été au centre de la rencontre de ce lundi entre le Premier ministre et les présidents des assemblées provinciales. Le ministre du budget a promis au sortir de cette réunion de communiquer aux provinces en 72 heures les projections budgétaires 2010 en ce qui concerne la rétrocession. Adolphe Mouzito a demandé aux provinces de beaucoup travailler pour mobiliser plus de recettes. La réponse de l'honorable François Kimassi, doyen des présidents des assemblées provinciales, les recettes provinciales sont faibles, faute de l'outil nécessaire de perception. On l'écoute.
Les provinces n'ont pas l'outil nécessaire pour pouvoir collecter leurs taxes comme il faut. Et dans toutes les provinces, on est en train de créer des structures ad hoc qui ne sont pas encore fonctionnelles. C'est ça qui fait que les recettes provinciales proprement dites ne sont pas récoltées de la manière satisfaisante. Et l'effort sera fait pour que dès le retour, les sorties soient faites.
La nouvelle économique au bout du fil.
Direction Matadi, où Dani Kindanzita nous accueille avec un projet de transport en commun entre la province angolaise de Cabinda et le Bas-Congo. Comment est-ce que les autorités des deux provinces comptent-elles mettre en œuvre ce projet de société de transport, Dani?
Ah oui, Georges, dans le cadre des programmes communs et des accords conclus entre les deux provinces, le gouverneur du Bas-Congo a informé les membres du gouvernement provincial de la création d'une société de transport routier devant l'avenir desservir les cités de la province angolaise de Cabinda et celle du Bas-Congo. Une délégation cabindaise a séjourné à Matadi la semaine dernière au chef-lieu de la province du Bas-Congo pour voir comment va se réaliser ce projet.
Voilà, ça c'est sur le plan protocolaire. Quelles sont maintenant les stratégies mises en place pour la création de cette entreprise mixte entre les deux provinces?
Oui, Georges, le nom ou les chiffres d'affaires de cette entreprise ne nous a pas été révélé par toutes les sources que nous avons contactées. Le ministre provincial des Transports, quant à lui, parle de l'aboutissement d'un projet dont le financement est ouvert aux personnes morales et physiques de deux provinces. Pour Jacques Kinkelapitu, l'apport des autorités au niveau des deux provinces consistera à faire le suivi de l'exécution de ces projets importants, car l'axe routier qui va être exploité, c'est Cabinda, Mwanda, Boma, Matadi, Tchela et vice-versa, a dit le ministre provincial.
Alors, dossier à suivre, Dani Kindanzita. Merci beaucoup de nous avoir parlé depuis Matadi, où l'on écoute Radio Capi sur 102 FM.
Merci, Jean.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Jocelyne Moussa Opondé.
On vous retrouve, Jocelyne. Chambichi Metal lorgne le cobalt de la RDC. Il déclare avoir signé des contrats avec certains miniers du pays.
Et Chambichi Metal est le grand producteur zambien de cobalt. La compagnie espère même en conclure davantage pour que les concentrés de cobalt lui soient livrés. Des accords qui pourraient entrer en vigueur en ce mois d'août. C'est la renégociation des contrats miniers qui a mis du retard dans l'application de ces accords, a déclaré vendredi l'un des patrons de l'entreprise zambienne à l'agence Reuters. Chambichi Minerals est détenu en majorité par le groupe anglais Enya Holdings.
Et le carat de diamant, le carat congolais de diamant classé moins valeureux en 2008 parmi les pays engagés au processus de Kimberley.
Sa valeur moyenne n'a été que de 13 dollars alors que le prix moyen tourne autour de 80 dollars. Des 49 pays qui ont souscrit à combattre la commercialisation du diamant issu des zones de conflit, c'est les Lesotho qui vend son diamant très cher, soit un prix moyen de 880 dollars par carat. Des résultats publiés par le processus de Kimberley et relayés aujourd'hui par l'agence Bloomberg.
Merci pour ces quelques nouvelles, Jocelyne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans cette seconde partie d'Écho d'économie qui se tourne vers le Maniema.
Écho reportage.
L'éco-reportage tout droit sur Kindu, dans la capitale du Maniema. Plus d'une vingtaine de membres de la coopérative d'épargne des crédits Kopekimara viennent de bénéficier des micro-crédits. Micro-crédits, pas en espèces, mais en nature. C'est-à-dire que l'on donne des biens tels que les taux, les congélateurs, au lieu de donner des billets. C'est la version donc New Look de la lutte contre la pauvreté. Reportage de Mathieu Ilunga Chambouy.
Pour cette coopérative, toutes ces distributions sont de microcrédits. Ils s'inscrivent dans le cadre de deux, la population à la reconstruction, le redressement de l'économie et la lutte contre le chômage au Maniema. C'est la 9e fois que cette institution privée s'est lancée dans cette opération depuis qu'elle s'est installée dans la province du Maniema il y a plus d'un an environ. Jean-Claude Itongwa, gérant de la Kopek Imara Kindu.
La Kopek Imara s'est mise dans la politique d'aider la population. C'est ainsi que nous avons fait le système de crédit nature. Nous avons acheté des tôles pour le membre, des motos, des congélateurs et des frigos. C'est ce qu'ils sont en train de retirer maintenant.
Cet acte n'a pas manqué à réjouir la population de la ville qui se sent prêt d'assouvir leurs besoins en plusieurs choses. Il n'y a pas eu que des tôles, mais aussi des motos et des congélateurs qui viennent à renforcer les transports et la communication. Tout ceci contribue à rehausser l'économie quand on voit la chaleur de Kindu qui nécessite une eau froide pour se rafraîchir. Maître Patrick Kikuni.
Je suis venu retirer ou réceptionner une moto marque TVS que vous voyez là-bas de couleur rouge. Nous encourageons les initiatives de la Kopek Imara. Que ces initiatives-là continuent. Sur le plan économique, c'est vraiment bénéfique et d'ailleurs ça réduit aussi les risques. Parce qu'on pourrait peut-être transférer l'argent et quelqu'un peut détourner, mais avec la Kopek Imara, elle se prend en charge et elle nous amène des motos ici.
Selon les gérants de la Kopek que nous avons cité si haut, leur maison reste ouverte pour toute personne désireuse de s'affilier dans le but de promouvoir le développement et l'épanouissement de l'économie de la province du Maniema. Jean-Claude Itongwa.
L'économie, c'est vraiment un problème que la Kopek Imara est en train de lutter, puisque nous avons même des projets agro-pastoraux que nous allons financer. Ceux qui ne sont pas encore membres de s'adhérer et ceux qui sont déjà membres de bien utiliser les biens qu'ils sont en train de recevoir pour que ça soit utile pour tout le monde.
Signalons que grâce aux initiatives de la coopérative Kopek Imara, aujourd'hui les transport en commun à travers les taxis moto a inondé la ville de Kindu et la population peut vaquer ça et là sans difficulté. Kindu, Mathieu Ilunga Chambo Monachebe, Écho d'économie, Radio Okapi.
L'entretien de ce soir.
L'invité de l'économie ce soir est Herman Bogno, patron de la SONAS. Herman Bogno qui souffle, en tout cas c'est peut-être le mot qu'on peut utiliser, qui souffle le chaud et le froid avec les agents de la SONAS qui sont entrés en grève la semaine dernière et qui poursuivent leur grève. À la base de tout ça, une proposition de diminution des salaires de 50% selon les agents. Herman Bogno, bonsoir.
Bonsoir.
En tout cas c'est le chaud et le froid comme on dit.
Écoutez, je suis très heureux d'abord de partager quelques informations avec vous.
Allez-y, s'il vous plaît.
Vous dites que les agents de la SONAS sont en grève, il faut qu'on se mette d'accord sur la
question. Un arrêt de travail.
De la grève. Ben justement, c'est tout le problème. C'est qu'on dit beaucoup de choses qui ne sont pas vérifiables. Une grève, c'est donc un arrêt de travail. Un arrêt de travail qui empêche les agents de travailler. La réalité est tout à fait différente. Nous avons une trentaine d'agents sur à peu près 1000 que compte la ville de Kinshasa. Ça concernant la SONAS, qui ne sont pas contents, vous l'avez dit, parce que nous proposons de revenir au barème salarial qui prévalait en décembre 2008.
Ces agents alors qu'il y a eu une augmentation au mois de janvier.
Un triplement des salaires. Alors expliquez-moi comment on fait si on continue à maintenir ces triplements, qu'il y a autant de problèmes. Nous continuons à payer les sinistres et nous refusons l'idée que nous devons prendre l'argent des clients pour payer les salaires. Non, nous prenons l'argent des clients pour continuer à payer les sinistres parce que le client, ce qui les intéresse, c'est pas les salaires des agents de la SONAS, c'est bien le règlement des sinistres qui est aussi l'un des éléments fondamentaux de notre charte de confiance.
Donc vous tenez à réduire les salaires de 50%?
Non, mais monsieur, n'affirmez pas que nous tenons à réduire les salaires de 50%. Je vous dis seulement historiquement, jusqu'en décembre 2008, quelqu'un qui gagnait 1000 dollars, au mois de janvier, au mois de février, cette personne a gagné 3000 dollars, c'est-à-dire une avance de pratiquement 6 mois de salaire. Ce qui explique quelques retards. Et encore, il faut remettre les choses dans leur contexte. La SONAS, c'est pas seulement Kinshasa. La SONAS, c'est toute la République. Ces problèmes se posent uniquement à Kinshasa. Partout ailleurs, les gens très raisonnablement ont compris que la production de l'entreprise, du fait de la crise international, du fait de la baisse de la production peut-être par des agents un peu démotivés qui attendaient qu'on rase gratis, comprennent qu'on ne peut pas continuer ces trains de vie. C'est que je suis en train de vous dire, c'est une erreur collective. Les syndicats ont signé pour cette augmentation. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas consacrer 90% de ce produit au salaire. Donc, on est en train de rectifier le tir, mais en attendant, on n'a pas remis en cause l'avantage acquis.
Mais Herman Bogno, est-ce que vous ne trouvez pas que cette situation, finalement, risque de décourager même ceux qui payent l'assurance?
C'est peut-être l'objectif qu'ils poursuivent ceux qui sont en train d'instrumentaliser cette grève. Je vous dis, pour qu'il y ait une grève, il faut qu'il y ait un blocage de l'appareil de production. Or, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 30 personnes. Vous étiez devant la SONAS. Vous avez vu combien de personnes? Il y a 30 personnes dans la rue avec des rameaux.
Non,
est-ce
quand même
que ça,
plus
c'est
que
une
ça.
Grève? Combien? Dites un chiffre.
Une centaine.
Oui, une centaine. Vous savez, on est boulevard du 30 juin, c'était un arrêt de bus, il y a les Chegui et tout ça. Je vous parle des agents de la SONAS. C'est facile de créer un spectacle. Il y en a 1200 à l'intérieur. Qu'on leur dise, eux aussi, de dire qu'ils tiennent à la survie de l'entreprise. On casse quoi? On veut la tête d'Herman Bogno. C'est ça, la réalité. Parce que il y a un poste qui est devenu intéressant. Mais c'est devenu intéressant parce qu'on a fait du bon travail. On a réussi à rendre attractif la SONAS qui ne l'était plus depuis longtemps.
Alors,
ça crée des appétits.
C'est qui veut votre...
Vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes journaliste d'investigation. Non, pas ma mort. Ne soyons pas excessifs. Je crois que les gens veulent juste mon poste. Ma mort, peut-être que Dieu pourra en décider, puisque c'est quand même lui qui décide de toutes ces choses-là. Mais par contre, oui, mon poste, je crois qu'il y a vraiment des appétits. Si les gens sont amnésiques et qu'aujourd'hui, ils oublient tout ce qu'on a fait uniquement parce qu'il y a quelques difficultés, il faut leur poser la question. Pourquoi est-ce qu'ils jettent le bébé et l'eau du bain? Que recherchent-ils? Lorsqu'on aura tué la SONAS, lorsqu'on aura viré Herman Bogno, est-ce que on va résoudre le problème des fonds qui est quand même de produire pour pouvoir partager les dividendes?
Alors, Herman Bogno, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura assez de bénéfices cette année pour la SONAS?
Écoutez, nous sommes dans un contexte international très particulier. Je crois que ça ne vous a pas échappé, qu'on a traversé tous les pays du monde une crise. Il y a même des grandes entreprises d'assurance. Je parle d'AIG qui ont dû être récapitalisées à hauteur de 70 millions de dollars par l'État américain. Donc, il faut arrêter de croire que nous sommes dans une bulle et que la SONAS doit être différente des autres. Nous sommes une une entreprise aujourd'hui moderne, capable de faire face à la concurrence, capable de se battre pour son destin, à condition que les gens soient de bonne foi. La question fondamentale que vous n'avez toujours pas posée, c'est est-ce que la SONAS peut soutenir des pays qui ont triplé? La réponse est très clairement, compte tenu du contexte, non. Donc, il faut être réaliste, les agents le comprennent. Aujourd'hui, on a repris la paye à l'ancien taux et 99% de nos agents acceptent ces nouveaux taux. Il y a 20, 30, 40, vous dites 100. Ok, 100, ça représente quoi par rapport à 1200? Ces gens-là sont manipulés avec des desseins purement politiques. Ils veulent simplement déstabiliser l'entreprise. Mais attention, là, si vous voulez que je vous dise le mot de la fin, il faut bien qu'ils aient à l'esprit que ce n'est pas Herman Bognon qu'ils sont en train de tuer. C'est la SONAS. Mais peut-être que ça arrange les intérêts de quelques-uns, mais ce n'est pas l'intérêt de notre pays. Ça, je dois vous
nous,
dire.
Ce qu'on souhaite, c'est que ça aille de mieux. Merci beaucoup à Herman Bognon d'être venu jusqu'au studio de Radio Capi pour Écho d'économie. On espère bien vous retrouver très prochainement, en tant qu'ADG, bien sûr.
Merci à vous.
L'émission Écho d'économie a été réalisée par Berry Luchaka et Daniel Tambizoni. Jocelyne Moussaou-Pondé était là avec nous sous la supervision de Martin Sebou-Djangwe. Merci à tous ceux-là qui ont participé à l'élaboration de cette émission Écho d'économie. Rendez-vous demain. Jusque-là, bonne soirée à tous.